les jardinières.
Salut à tous et bienvenue dans les jardinières. Comme tous les samedis, on est aux anges de vous retrouver pour une nouvelle session jardinage. Et puis ça y est, on a enlevé tous les confettis de nos pelouses. La place est complètement libre pour prendre soin de nos espaces verts. Et ce matin, je suis évidemment bien accompagnée. La petite fée des plantes vertes, c'est Sophie, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Et même avec une baguette magique, on n'aurait pas tous les pouvoirs pour répondre à toutes vos questions. Par contre, lui, il est super calé. C'est Jean-Pierre Ribaud, jardinier à Queuve. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Nous sommes le 9 mars 2019 et quand en mars il pleut, sois heureux tant que tu peux. Avec des petits dictons qui sont parfois toujours d'actualité, c'est pourquoi on a décidé non seulement d'être heureux, mais aussi de prendre nos bloc-notes pour récolter les meilleurs conseils possibles. Alors que faire en ce moment au jardin? Peut-on déjà commencer notre potager? Est-il encore temps de tailler les arbres? Eh bien on répond à toutes ces questions grâce à Jean-Pierre Ribaud.
Des questions auxquelles il répondra en direct si vous composez le 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et si votre voix est encore un peu éraillée, parce que c'est le matin quand même, vous nous envoyez simplement un SMS en inscrivant le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Vous envoyez le tout au 939. Et sinon, il y a toujours le formulaire présent sur nos sites internet sous l'onglet questions aux jardinières.
Et bien voilà, les présentations sont faites. Les jardinières, c'est parti jusqu'à 8h.
Les jardinières, Sophie et Stéphanie.
Et on démarre avec un formulaire qu'on avait reçu la semaine dernière. Il nous vient d'Ernest de Delémont, qui nous demande ce qu'il en est de la valeur nutritive du compost à disposition, à la déchetterie, notamment à celle de Delémont. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme engrais?
Oui, bien sûr. Bonjour Ernest. En fait, tous les composts sont intéressants pour une amélioration des surfaces où on va planter des légumes, des vivaces ou autres. Il faut juste savoir que plus le compost est important dans sa capacité, dans son volume, et moins vous serez envahi de mauvaises herbes futures. Ça veut dire que les tas de compost comme de Lémont, qui proviennent en fait du CO de Bouicourt en général, qui ont été tamisés sur le site de Bouicourt, ils ont des tas tellement conséquents que les températures montent très très élevées et puis ça vous brûle toutes les mauvaises herbes qui pourraient être dormantes dans cette matière. Après, au niveau de la matière fertilisante du compost, alors c'est quelque chose qui est très intéressant au niveau de la conservation de l'humidité dans le sol. Et puis, on a vraiment de l'azote plutôt rapide, alors qui va se transformer rapidement pour que la plante puisse l'assimiler. D'ailleurs, si vous utilisez du compost empaillé autour d'arbustes, de fruitiers, de haies, vous allez vous en rendre compte assez vite que les pourtours de ces surfaces de compost au niveau gazon, votre gazon sera très très vert et puis va en décrescendo au niveau de la couleur. Ça veut dire que ce compost est vraiment intéressant à plusieurs niveaux. Oui, vous pouvez l'utiliser, bien sûr.
Et puis justement, niveau compost, hein, j'en profite pour poser cette question. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a à disposition dans toutes les déchetteries? Parce que c'est vrai qu'on parle celle de Delémont. Est-ce que dans les autres régions, c'est pareil?
Alors pour connaître en tout cas la région de Delémont et Porrentruy, à Porrentruy, on a une grande compostière qui se trouve à la hauteur de l'ancien aérodrome de Courtedoux, où vous pouvez prélever justement du compost qui a été vraiment bien travaillé et puis de bonne qualité. Dans les autres communes, c'est un petit peu plus compliqué parce que les tas sont moins travaillés, moins grands en conséquence. Peut-être avec trop d'éléments ligneux tels que du bois, des choses comme ça. Puis ça, c'est négatif s'il est en trop grande masse dedans. Et puis ici, pour la vallée de Delémont, alors en tout cas, la compostière du CE d'Abouicourt et puis la place de Delémont est fantastique au niveau de la qualité du produit donné.
Et puis je profite encore pour vous avertir que tous ceux qui nous écoutent dans le canton de Neuchâtel, il y a aussi, nous dit-on, à Boutevilliers, hein, la disposition dans une déchetterie du compost dans le canton de Neuchâtel, donc Boutevilliers et également Vermora. Voilà Sophie.
On poursuit avec les fleurs, hein, on le sait, les orchidées ne sont jamais très loin dans les jardinières. C'est Brigitte de la Hutte qui nous demande « Mes orchidées papillons ont beaucoup de feuilles et de racines, mais je ne parviens pas à les faire refleurir. Pourriez-vous me conseiller ?»
Oui, bien sûr. Bonjour Brigitte. En fait, il faudrait simplement les oublier dans l'arrosage, ces orchidées, puis peut-être les placer dans un endroit où il fait un peu plus frais que d'habitude par rapport à où elles se trouvent. Et puis au bout de même un mois et demi, deux mois, vous remettez gentiment l'arrosage et puis vous les remettez dans une situation un peu plus propice par rapport à la lumière et la température. Et puis là, elle va repartir en floraison. En fait, là, elle est un peu déstabilisée parce qu'elle est toujours sur le même rail, en fait. Et puis, elle a perdu un peu les sens des périodes de floraison. Alors, dans la nature, c'est le même tempo. Hein. C'est pour ça qu'il faut couper un peu les arrosages, la laisser un petit peu en souffrance. Et puis, quand elle sera repartie avec un arrosage et un petit peu d'engrais spécial orchidée, eh bien, vous allez voir, elle va revenir tout plein de fleurs.
L'engrais spécial orchidée, c'est bien de le mettre à chaque arrosage?
Non, une fois par semaine suffit. Ce n'est pas une plante qui est très exigeante.
On a une autre question. À l'approche du printemps, c'est Denis qui nous emmène dans son jardin. Il vit à Fontaine, au Val-de-Rue. Il aimerait faire son potager bio. Et puis, il se demande justement comment le fertiliser.
Oui, alors bien sûr qu'on peut faire un potager bio. Simplement, il faut un bon substrat terreux avec une terre végétale intéressante. Et puis, on peut lui mettre justement du compost en mulchi ou en paillis ou en incorporation, y compris des fumiers de bovins ou chevalins bien décomposés. Ou si vous voulez acheter de l'engrais dans le commerce, alors on trouve vraiment des sachets. C'est en fait des creuses de poules qui sont bouchonnées. Même l'agriculture, on utilise des tonnes et des tonnes. C'est assez violent comme engrais, en fait. C'est des éjections de poules, pardon. Donc, en mettre parcimonieusement, mais pas de souci, il va y arriver.
Merci beaucoup Jean-Pierre Ribaud. Je rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h avec tout votre savoir en matière de jardinage. Et puis bien sûr, hein, Sophie, il y a pas mal de moyens pour les auditeurs de poser leurs questions.
Oui, si vous voulez profiter du savoir de Jean-Pierre, vous pouvez le faire par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Sinon, vous pouvez aussi le faire par écrit, soit en prenant le formulaire présent sur nos sites internet, ou alors par SMS, vous envoyez au 939, vous envoyez le mot jardin, vous laissez un espace, et puis vous tapez tout simplement votre question, si possible détaillée. On va continuer avec une question qu'on a reçue par SMS pendant cette pause, une question qui nous vient de Fred, qui habite à Halle, et qui nous dit que sa pelouse a été ravagée par les larves de hanneton. On lui a conseillé de racler tout ce qui est sec, ensuite de passer le scarificateur et de semer. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, Jean-Pierre Ribaud?
Oui, bonjour Fred. En fait, non, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire de plus. Par contre, dans la chronologie des choses, c'est peut-être pas tout à fait comme ça que je pratiquerai. Il faut juste, faudrait voir la pelouse pour vraiment être précis sur le mode d'intervention. S'il y a beaucoup de déchets végétaux qui restent sur cette pelouse, parce que c'était une pelouse qui était très riche en graminées, peut-être là, ça vaudrait la peine d'enlever un petit peu de ce matériel végétatif qui est sec par-dessus. Et puis s'il n'y en a pas beaucoup, ou s'il y en a avec un petit peu de la mousse, nous, on aurait plutôt tendance à dire on fait un sursemis par-dessus cette surface, on passe le scarificateur sans ramasser la matière végétale que vous aurez enlevée avec le scarificateur. Il n'est pas nécessaire de travailler trop profond non plus avec le scarificateur pour justement éviter d'avoir trop de mulchi par-dessus. L'avantage de cette manière de faire, c'est que la semence, elle va tomber en dessous de ce mulchi qui va rester, ces déchets de pelouse sèche. Et puis, surtout, ne pas oublier d'y mettre vraiment de l'engrais pour favoriser un enracinement et puis un démarrage rapide de la semence que vous aurez mis en place. Parce que si vous travaillez de la manière dont vous avez dit, ça veut dire un raclage de cette surface et puis une scarification et un semis, la semence, elle va se trouver vraiment à la luminosité. Et puis la semence du gazon, elle n'apprécie pas tellement cette situation, d'autant plus si on a un printemps qui est très séchard. Alors, l'avantage justement de laisser cette matière en décomposition par-dessus, la semence va démarrer par-dedans. À la première tonte, vous en ramassez une partie, le reste va rester en mulchi, ça va se décomposer par la suite, et puis votre pelouse sera super. Mais vraiment, ne pas oublier de lui mettre vraiment de l'engrais, parce que si vous oubliez de mettre vraiment de l'engrais sur ce sursemis, ce qui va arriver, c'est que vous allez travailler de mauvaises herbes, et puis après, vous devrez réintervenir au mois de mai avec un sélectif pour enlever tout ce qui sera de large feuilles, plantains, trèfles, cramias, et tutti quanti, voilà.
Jean-Pierre, on parle de larves de hanneton, est-ce qu'il y a quelque chose pour prévenir de ça?
Non, c'est compliqué, en fait, c'est cyclique, c'est tous les 2-3 ans qu'on a des attaques. Il y a des fois, c'est même par commune, seulement certaines communes sont touchées. On peut essayer de traiter avec un insecticide, mais c'est très laborieux parce que l'insecticide, c'est quelque chose qui est quand même pas très écologique. Et puis, on doit le mettre avec un arrosoir et puis ça ne prendra pas que la larve de hanneton. Il est difficile de se prémunir de cette situation. Après, la larve de hanneton, elle a plutôt tendance à attaquer sur les pelouses qui sont de mauvaise qualité ou les terrains sont pas très bons et puis où la pelouse, elle est souffrante. Et puis, c'est comme tout autre parasite, eh bien, elle va s'attaquer plus volontiers à des surfaces qui sont en souffrance que d'attaquer à une plante qui est super forte.
Merci Jean-Pierre. N'hésitez pas à nous envoyer un SMS, vous qui nous écoutez ce matin, qui avez peut-être une question jardinage. Vous le faites au 939 en envoyant le mot jardin, un espace et votre question, comme l'a fait Ludovic de Cernier, qui voudrait mettre des bacs dans son jardin pour faire pousser différents légumes. Alors il nous cite les courgettes, les carottes, la salade et des herbes aromatiques également, la ciboulette, le persil. Il nous demande quelle profondeur de bac doit-il utiliser et puis quel terreau également. Quel terreau utiliser ?
Oui, alors je pense qu'il est dans l'idée de faire un jardin suspendu. Ça devient coutumier et sympathique chez nous de les avoir comme potager parce qu'on arrive à travailler à hauteur de taille. Ça veut dire que quelle hauteur ? Eh bien, il peut faire un bac peut-être jusqu'à 80 cm, 1 mètre de haut. Il pourrait aussi très bien se contenir avec un bac de 50 cm. La hauteur n'a pas tellement d'incidence par rapport à l'utilisation. Simplement, c'est plus facile pour le travail. Et puis, par rapport à la protection du tour, alors on a pour habitude d'utiliser plutôt des poutres en bois, mais quelque chose qui n'est vraiment pas traité, quelque chose qui va essayer de se contenir dans le temps, ne pas se décomposer pour que l'élément se maintienne. Et puis à l'intérieur, lui mettre plutôt un super terreau ou une super terre végétale, y compris un mulchis de compost, fumier et autres. Il n'aura pas de souci avec ça. Simplement, il faut savoir que les jardins en suspension tels que ça, l'été sec, ils ont plus tendance à souffrir du manque d'eau, parce qu'évidemment, on est en hauteur, et puis les températures extérieures des poutres ou des planches ou de ce que vous aurez mis vont un peu assécher votre substrat intérieur. Alors, il y a un peu plus d'arrosage à donner, mais pour le reste, c'est cool.
Et puis, par rapport à ces bacs justement de légumes, notamment des courgettes, des carottes, c'est vrai que c'est des choses qui poussent également dans le sol. Mais si on le met dans des bacs, est-ce qu'il faut tout renouveler chaque année ou on peut garder le même terreau ?
Non. Alors, on peut vraiment garder le même substrat. Simplement, il faut faire un rajout chaque année d'un élément nutritif qui peut être soit biologique, soit organique, soit chimique, enfin, dans les engrais du commerce. Non, chaque année, il faut remettre quand même une adjonction d'engrais pour que vous ayez des légumes qui se développent à merveille. Simplement, vraiment pas oublier l'arrosage de l'été, parce que c'est là qu'il y aura le plus de soucis.
Est-ce qu'il y a des légumes qu'on ne pourrait pas planter dans des bacs ? Il y a tout
non,
qui se plante ?
Non, tout irait bien.
Même des courges ?
Même les courges, c'est bonheur, parce que quand elles débordent de la traverse et puis qu'elles pendouillent, elles restent super propres, elles ont super couleurs. Tandis que si elles sont posées au sol, eh bien, elles peuvent avoir des attaques de parasites, elles changent de couleur, elles peuvent être jaunâtres. Quand elle se trouve sur le sol et autres, voilà. Non, c'est pas tout.
Ah ouais, donc bonne idée de faire ça en bac.
Tout à fait.
Merci beaucoup Jean-Pierre Ribaud. Je rappelle que vous êtes jardinier à Queuve. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Et puis ça laisse plein de temps, hein, Sophie, pour poser vos questions, vous qui nous écoutez. Et puis justement, Sophie, vous avez peut-être quelques infos à nous dire concernant ces questions.
Ça laisse plein de temps, oui, effectivement, pour soit nous appeler au 0901 70 20 20, pour, je le rappelle, 36 centimes la minute. Et sinon, vous pouvez aussi nous envoyer un formulaire que vous trouvez sur nos sites internet, ou encore vous prenez votre téléphone portable, vous écrivez le mot jardin au début de votre message, vous laissez un espace, vous tapez votre question et vous nous envoyez le tout au 939.
7h, 8h. Les jardinières. Les jardinières.
De retour dans les jardinières de ce samedi 9 mars. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On est toujours en compagnie de notre professionnel Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Il nous fait part de son savoir pour répondre à vos nombreuses questions ce matin.
Des questions que vous pouvez vous aussi poser, hein, tout simplement en composant le 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Mais on lit également vos SMS et vos formulaires. Pour rappel, il vous suffit d'indiquer le mot jardin au début de votre SMS, laissez un espace, puis vous tapez votre question. Le tout doit être envoyé au 939 et vous trouvez également un formulaire sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières. Dans les deux cas, hein, le cas du SMS et celui du formulaire, n'hésitez pas à bien détailler votre problème.
Et on a reçu pas mal de SMS, hein. Sophie, ce matin, on a du succès au 939, notamment celui d'Aurélie qui, elle se demande à quel moment et comment planter des tagettes. Jean-Pierre Ribaud.
Oui, Aurélie, en fait, pour la tagette, on est vraiment trop précoce dans la saison, parce que c'est une plante qui est hypersensible au niveau du froid. Ça veut dire qu'avant les saintes glaces, ça veut dire autour du 10-12 mai, il est impossible d'implanter de la tagette dans vos plates-bandes. Après, si vous voulez les semer, par contre, si vous voulez faire vos jeunes plants vous-même, alors c'est encore un petit peu tôt pour les mises en place, mais d'ici 15 jours, il faudra mettre en place les semis dans des barquettes, dans une zone un peu tempérée, arrosée, humide. et puis un peu d'huminosité. Et puis, ben justement, autour du 10 mai, l'implantation dans le massif pourra se faire. N'oubliez pas que la tagette est une plante qui raffole d'une terre profonde, riche en éléments nutritifs, donc avec engrais, compost, ce que vous diriez bien lui mettre, et puis un bon arrosage. Et puis là, vous êtes garanti d'avoir une super plate-bande de tagettes fleuries tout l'été.
On a reçu un autre SMS d'une autre, Aurélie, qui nous vient de Bonfolle, qui nous dit qu'elle a des enfants et un chien, et du coup, elle aimerait savoir s'il existe un engrais pour gazon qui ne serait pas dangereux pour les enfants et les chiens.
Ok, oui, bonjour Aurélie. En fait, il n'y a pas vraiment d'engrais qui sont dangereux du moment qu'on ne les mettra pas à la bouche. Donc, que ce soit une fiente de poule bouchonnée ou un engrais du commerce traditionnel, simplement, il ne faut pas le mettre à la bouche et puis il n'y aura pas de souci autant pour le chien que les enfants que quiconque.
Donc, on peut y aller avec l'engrais, même pour les plantes intérieures, finalement. Après, tant que...
Oui, bien sûr. Après, dans les plantes d'intérieur, on utilisera plus volontiers des engrais liquides qui sont plus facilement assimilables par la plante parce qu'ils sont sous d'autres formes. Par contre, pour les pelouses extérieures, les plantations et autres, on va travailler plutôt avec des engrais soit de 3 à 6 mois de données d'éléments nutritifs aux plantes, pardon. Si vous mettez que de l'azote, par exemple, ce qui va arriver, vous aurez une très forte pousse sur 15 jours et puis vous n'aurez plus rien derrière. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas positif. C'est vrai que quand vous utilisez des engrais, cherchez à avoir des engrais qui s'étalent un peu sur le temps. Et puis, alors évidemment, si vous mettez un engrais au mois de septembre sur votre pelouse pour avoir encore une qualité de pelouse sur l'automne, prenez un engrais plutôt court sur la saison parce que sinon, janvier, février, mars, ça sera du lessivage puis ça sera de la pollution au niveau des sources. Par contre, au printemps, on peut mettre un engrais de longue date qui peut s'étaler sur 6 ou même 10 mois. On trouve tout ça dans le commerce.
Ouais, puis pour revenir sur les enfants et les animaux hein, qui mangent souvent, c'est vrai que les chiens notamment ont tendance à brouter, c'est souvent. S'ils mangent des plantes intérieures aussi, ça peut être nocif ?
Non, alors non. C'est-à-dire que s'ils mangent des éléments nutritifs tels que de la fiente ou... La fiente, de toute façon, on ne va pas la manger parce que c'est très odorant et puis c'est désagréable. Et puis si c'est un engrais du commerce, en fait, l'aspect salé sera désagréable, il va recracher, il ne va pas l'avaler, c'est sûr.
Bon, alors me voilà rassurée. On a reçu une autre question de Pierre de la Ferrière. Conseillez-vous d'utiliser le fumier de cheval comme engrais pour des arbres fruitiers ou des plantes situées à 1000 mètres d'altitude ?
Oui, bien sûr. Bonjour Pierre. En fait, tous les fumiers sont intéressants à l'utilisation pour des adjonctions d'éléments nutritifs, que ce soit en paillis, comme vous souhaitez le faire, par rapport à la plantation de vos fruitiers ou en incorporation dans le sol. Simplement, il faut que ce matériel ne touche en tout cas pas le tronc. D'ailleurs, on sait très bien que si on prend l'exemple d'un fruitier dans un rayon d'un mètre autour du tronc, les racines ne s'y trouvent pas forcément. Elles sont très grandes à ce niveau-là, puis il n'y a pas d'éléments tels radicelles et autres qui va pouvoir absorber les éléments nutritifs. Alors, épandez vos éléments nutritifs en gros sous la largeur de la couronne de votre fruitier en laissant se mettre dégagé par rapport au trou. Après, que ce soit du fumier de bovin, de cheval et autres, il n'y a aucun souci. Peut-être pas en trop forte densité parce que ce qui risque d'arriver, s'il est trop épais, vous allez avoir une arrivée de souris qui pourrait s'y mettre par-dessous. Et puis en décomposition, sinon, si vous avez une pelouse ou autre, c'est peut-être pas le top non plus. Donc il faut le mettre avec, je ne vais pas dire la petite cuillère, mais parcimonieusement également.
On a encore reçu un autre SMS. Décidément, c'est le moyen le plus utilisé ce matin. Mais je rappelle, vous pouvez aussi nous contacter au 0900 170 20 20 ou via le formulaire que vous trouvez sur notre site internet. Mais sinon, c'est Rolande qui nous a écrit un message, qui nous a dit qu'elle aimerait acheter de la graine de cypress d'été, appelée aussi cochia, et elle aimerait savoir où la trouver.
Alors bonjour madame. Je pense dans les grandes surfaces, vous me posez une colle, je ne connais déjà pas trop la plante, j'imagine qu'on est plutôt dans le secteur horticole. En tant que paysagiste, on travaille moins avec ces petites plantes, on s'excuse. C'est peut-être une question à poser aux prochaines jardinières. Là, je suis un peu pris.
Écoutez, pas de souci, on va garder cette question, Rolande, et puis on va la reposer la semaine prochaine. Et puis, évidemment, on ne manquera pas de vous donner la bonne réponse. On va parler d'engrais encore avec cette demande de Gérard de la Côte-aux-Fées. On reparle de fumier de cheval d'ailleurs. Voilà, on a une autre question de fumier de cheval. Il aimerait mettre du fumier de cheval dans son jardin. Comment est-ce qu'il doit procéder ? C'est un petit peu la réponse finalement que vous venez de donner à notre dernière demande.
Oui, simplement que dans le potager, il peut aussi le mettre lors d'un labourage printanier tel que maintenant, c'est le gros moment encore de le faire. Ça veut dire que il prend son fumier, il fait un bêchage, un arronnage grossier de son potager. Et puis à chaque rangée de terre qu'il aura enlevée, donc il aura une bonne saignée, il peut mettre une fourchée de fumier dans cette saignée et puis recouvrir cette saignée avec la terre de la prochaine pellée. Il y a juste le risque qu'il ait peut-être un petit peu des développements de champignons dans le temps parce que le fumier de cheval en décomposition provoque vraiment des mycéliums, mais ce n'est pas négatif non plus. Puis c'est vrai que c'est intéressant parce que le fumier de cheval est très très riche.
On va poursuivre avec Jean de Lenneville qui aimerait déplacer des pieds de vigne de quelques mètres. Quels sont les risques et comment faire ?
Oui, alors quels sont les risques ? En fait, ça dépend vraiment de l'âge du plant qu'il voudra transplanter. On sait que la vigne peut avoir des racines, des radicelles qui peuvent s'étaler sur 3-4 mètres de longueur. Alors évidemment, si c'est un vieux plant de vigne, c'est peut-être mieux de ne pas le déplacer. Si c'est des jeunes cèpes, alors il n'y a pas de souci, il peut encore le faire maintenant. Il faudrait profiter de le faire avant le démarrage de la végétation. Et puis là, la vigne, on sait qu'elle démarre relativement très vite. Donc je dirais qu'il lui reste 10-15 jours à pouvoir le faire. Mais vraiment, ça dépend de l'âge du cep. Si c'est des vieux ceps, il y a de fortes chances qu'ils ne repartent pas. Si c'est un jeune cep, il n'y a aucun souci. Simplement, essayer de prélever une belle motte pour ne pas trop démonter les radicelles qui se trouvent au démarrage du cep.
Merci beaucoup Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à queue. Vous êtes encore avec nous jusqu'à 8 heures. Vous répondez à toutes nos questions et justement, il y a plusieurs moyens, Sophie, de poser les questions.
Vous pouvez le faire comme plusieurs l'ont déjà fait ce matin par SMS. Hein. Vous écrivez le mot jardin, vous laissez un espace et vous écrivez votre question. Vous envoyez le tout au 939. Sinon, numéro un tout petit peu plus long, 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. C'est le numéro pour appeler et directement parler avec Jean-Pierre Ribaud aujourd'hui. Et sinon, il y a aussi le formulaire que vous trouvez sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
On a reçu un appel pendant la pause de Roger qui nous écoute d'Yvenant et qui a eu un petit doute sur ce que vous nous avez déjà dit avant, Jean-Pierre Ribaud. Le scarificateur, est-ce qu'il faut scarifier après avoir semé l'engrais ou est-ce qu'il faut semer l'engrais avant? Si vous pouviez nous faire un petit rappel.
Oh oui, bien sûr. Bonjour Roger. Il ne faut surtout pas mettre l'engrais avant de passer le scarificateur. Parce que ce qui va arriver, votre scarificateur, il va vous pulvériser l'engrais que vous aurez mis et puis il va même partir en poussière chez le voisin. Dans l'idée, on sursème avec une pelouse fleurie, une pelouse traditionnelle, un gazon, ce que vous souhaitez. Vous passez le scarificateur, on évite de ramasser ce mulchi qui va rester par-dessus, donc il n'y a pas besoin de hacher menu complètement, de faire une scarification croisée, ce n'est pas nécessaire non plus. Et puis seulement après, vous mettez votre engrais par-dessus. L'engrais va se décomposer soit par l'humidité ambiante de l'air, ou par l'arrosage, ou par la pluie. Mais non, ce n'est pas la solution. Sinon, je vous le dis, ce ne sera que de la poussière qui va se propager ailleurs et plus sur votre pelouse. Donc voilà.
On a reçu une question de Nathalie qui a dû déplacer sa plante intérieure, dont elle ne sait plus le nom, ma foi, dans une autre pièce, parce que justement son chat n'arrêtait pas de manger les feuilles. Alors est-ce que c'est traumatisant, non pas pour le chat, mais pour la plante de changer de pièce? Et qu'est-ce qui peut arriver finalement à cette plante? Est-ce qu'elle peut être, avoir une espèce de changement d'orientation de lumière? Est-ce que ça peut impliquer quelque chose de négatif?
Oui, bien sûr, il aurait été plus facile de déplacer le chat que la plante, j'imagine. Parce que si la plante se plaisait dans son endroit, c'est que la température ambiante, l'humidité, la luminosité étaient au top. Maintenant, si vous la mettez dans une autre partie de la maison, d'une autre pièce, déjà, il faudra qu'elle se réadapte un peu à cette situation. Et puis, si vous avez une température différente, une luminosité différente, vous avez des risques d'avoir un peu des séquelles sur les pousses ou les feuilles. Il y a quand même un petit risque, évidemment. Il faut aussi savoir tout simplement que si un paysagiste voudrait planter une grande plante qui provient d'une pépinière, puis que c'est une plante qui a plus de 10-15 ans de culture en pépinière, les pépinières nous les marquent dans le prélèvement pour avoir toujours le côté sud. Comme ça, nous, quand on replante cette plante dans l'aménagement paysager, vous avez toujours le même côté qui est exposé au soleil plein sud pour éviter les brûlures et les dégâts. Donc voilà, c'est pas anodin, c'est le genre de truc qu'il faut se prémunir, oui.
Merci Jean-Pierre Ribaud. On a reçu un autre SMS juste maintenant qui nous demande quand et comment rempoter un Dipladenia et est-ce qu'on peut les raccourcir maintenant?
Oui, alors bien sûr, on peut raccourcir un peu le dipladénia puis le rempoter maintenant. Il faut simplement changer de pot, mettre un substrat adapté, ça veut dire des terreaux qui se portent bien pour les plantes d'appartement. On les trouve facilement dans le commerce. Un bon arrosage et puis il va redémarrer, oui, bien sûr.
On a une autre question de Romain. Ah, lui, il aimerait planter des pieds d'alouette ou alors delphinium.
Oui.
Mais par contre, il ne sait pas comment s'y prendre, quel est le meilleur moment et surtout quel est le meilleur endroit pour le faire. Magnifique plante, hein, d'ailleurs, le
pied d'alouette. C'est une plante vivace qui adore aussi les surfaces profondes, les terres riches. C'est le gros moment encore. Si c'est pour les plantes, il peut les planter maintenant, on va les trouver gentiment dans le commerce. Si c'est pour une transplantation ou une multiplication par division des plants qu'il a dans son massif, il peut aussi le faire maintenant. Pareil, essayer de ne pas trop démonter les mottes. Les mettre dans un terrain qui est riche en profondeur, assez frais, et puis elle va repartir, elle va s'épanouir déjà cet été. Je ne peux pas garantir que le plant qui aura été transplanté ce printemps aura des fleurs d'un mètre 80 cet été, mais de toute façon, elle va venir en fleurs, et puis l'année prochaine, ça sera tout compensé par la nouvelle pousse.
On poursuit avec un yucca. C'est Yvette qui nous dit que son yucca, qui a toujours été en bonne santé, a les feuilles qui jaunissent et qui se dessèchent les unes après les autres. Est-ce qu'il s'agit d'un manque d'engrais ? Quel est le meilleur moyen de garder un yucca ? Donc il y a deux questions. Est-ce que c'est un manque d'engrais, le fait que ses feuilles se dessèchent ? Et quel est le meilleur moyen de garder un yucca en bonne santé ?
Oui, alors en fait, si c'est un manque d'engrais, elle verrait une autre arrivée de problème, c'est qu'il ne se développerait plus, il se nidifierait, il aurait des petites pousses dans la pousse terminale. C'est en tout cas pas un manque d'engrais, c'est plutôt une réaction par rapport à soit trop d'eau, pas assez d'eau, ou un coup de froid, un coup de chaud, ou simplement la période hivernante avec une température très sèche dans l'appartement qui fait qu'il est en souffrance. Et puis par le fait qu'il est en souffrance, il se libère de ces surfaces vertes où il y a cette transformation chlorophyllienne parce qu'évidemment, une plante qui est en souffrance, elle va lâcher un maximum de feuilles pour arriver à survivre. Et puis elle va en tout cas pas lâcher les nouvelles pousses parce qu'elle sait très bien que c'est là qu'il y a du potentiel. Donc elle délaisse ces dernières feuilles qui sont arrivées. Donc c'est plutôt soit une réaction par rapport à la situation hivernante et puis ça va se calmer gentiment parce que les températures vont remonter, l'humidité intérieure des appartements également par le fait qu'on va aérer. Je pense que ça devrait se compenser.
Et puis par rapport au yucca, justement Jean-Pierre, est-ce que c'est une plante qui peut vivre des années et des années ? Généralement, c'est vrai que c'est un peu la plante qu'on prend un peu un moyen de facilité parce que c'est facile de s'en occuper, mais est-ce qu'elle peut vivre comme ça pendant très longtemps ?
Oui, bien sûr. C'est une plante plutôt arbustive. Hein. Quand on la trouve dans son lieu indigène, c'est des plantes comme un arbuste qui peut vivre 10, 15, 20 ans. Il n'y a pas de souci. C'est toujours une question de longueur. Après, si elle arrive à se supporter d'elle-même ou si elle casse. Mais non, en durée de temps, pas de souci. Après, je dois aussi dire, on a une super plante, le Yucca filamentosa. C'est celui qu'on trouve dans les massifs extérieurs. Hein. Celui qui veut faire une petite rocaille, n'oubliez pas de la planter parce qu'il est superbe. Il a des super ampes florales d'1,50 m de hauteur blanc, et puis hyper robuste, et au sec, et au froid, et facile d'entretien.
Oui, c'est vrai comme ça. Puis qu'est-ce que vous conseilleriez d'autre comme plante justement facile d'entretien pour l'intérieur déjà ?
Pour l'intérieur, ben, c'est toujours compliqué de il faut juste savoir que si vous n'avez pas un jardin hivernant pour hiberner vos plantes durant l'hiver, c'est plus compliqué. Si vous avez une véranda ou quelque chose comme ça, après, ben, toutes les plantes d'intérieur s'adaptent assez facilement à tout ça. Après, dans toutes leurs caractéristiques propres, ça veut dire au niveau engrais, arrosage, terreau, substrat et autres. Mais c'est seulement ce passage hivernant qui est compliqué. Au-delà de la saison, c'est facile. Alors, choisissez peut-être des plantes faciles. Je ne peux pas vous citer, il y en a tellement, vous les trouvez relativement facilement dans le commerce. Mmh. Après, il y a souvent des petites expériences personnelles qui font qu'on se dit, ah ben celle-là, elle ne va vraiment pas passer chez nous, et puis celle-là, ben, elle est vraiment facile d'entretien, puis elle passe.
Voilà. Ouais, souvent, c'est là que c'est intéressant de faire ses propres expériences. Et il nous reste une petite minute, Jean-Pierre, nous sommes le 9 mars, est-ce que vous avez des petits conseils sur ce qu'on peut faire en ce moment au jardin ? Qu'est-ce qui serait le mieux à faire pour anticiper les beaux jours ?
Oh, plein de choses. C'est le gros boom dans les aménagements. Ça veut dire les plantations, bien sûr. Les plantations racines nues, ça vient gentiment à la fin. On a toutes les plantations en plantant pot en mode qui peuvent se réaliser. On a la fin des tailles qui arrive gentiment. On a les sursemis sur les pelouses qui vont tantôt démarrer. On a les entretiens de plates-bandes de vivaces, rosiers. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut attaquer maintenant. Ça grouille de travail, là, maintenant, effectivement. Le printemps arrive.
Eh bien, on se réjouit. Et puis nous, ben voilà, on a déjà arrivé à l'heure de nous séparer, de filer au jardin pour justement appliquer tous ces conseils reçus ce matin. Merci Jean-Pierre Ribaud de vous être déplacé pour répondre à toutes les questions des auditeurs. On vous souhaite une excellente journée et à bientôt.
Super, merci à tous.
La prochaine édition des Jardinières, eh bien, elle est prévue tout simplement pour samedi prochain. Si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question ce matin, vous pouvez le faire dès à présent par SMS au 939 ou grâce au formulaire toujours présent sur nos sites internet. Hein, et elles seront traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Bon week-end.
7h, 8h, les Jardinières.